Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 31e numéro du quart d'heure corrézien. Je suis Olivier Serrac et c'est moi qui vous accompagne durant les 15 prochaines minutes dans l'actualité de la semaine en Corrèze. Semaine marquée par cet exercice des forces de sécurité et de secours à Brive jeudi. Si elles ont simulé l'explosion d'un camion citerne sur le site de Butagaz, elles ont surtout testé un nouveau service d'alerte à la population. FR Alerte. Des collégiens et lycéens de Brive ont séché les cours mardi dernier, non pas parce qu'ils n'avaient pas envie d'aller en maths ou craignaient le contrôle d'histoire, mais parce qu'ils sont en colère notamment contre le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres en Occitanie. La deuxième biennale d'histoire locale s'est ouverte cette semaine à Tulle. Des rencontres avec des historiens, des sociologues, mais aussi des agriculteurs ou encore des cuisiniers. Parce que cette année à Tulle, la biennale d'histoire se penche sur le thème « boire et manger localement ». Enfin, il est à la retraite depuis 2 ans maintenant, mais au tout début de sa carrière, il a créé avec son épouse Sandrine le Centre Municipal d'Art Plastique de Brive. Il y expose en ce moment. Jean-Maurice Souchaud nous explique ce qui le passionne dans l'art et ce qu'il espère offrir aux visiteurs. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. Les brivistes ont peut-être entendu cette sirène dès jeudi matin, une sirène qui survenait après la réception d'un message d'alerte, message reçu à 8h45 précisément et qui indiquait clairement qu'il s'agissait d'un exercice. Un exercice organisé par la préfecture de la Corrèze sur le site de Butagaz à Brive. Cyril Loison est d'ailleurs le directeur des opérations de Butagaz.
Le scénario d'accident, c'est donc le feu de la cabine qui se propage à la citerne et donc ce qu'on appelle un blef de la citerne, c'est une explosion du réservoir du camion.
Et ces exercices ne sont pas une nouveauté pour l'entreprise.
L'intérêt de cet exercice, c'est de tester le dispositif, d'une part, et puis on fait des exercices tous les mois. Le but, c'est donc à la fois de tester, mais aussi d'acquérir des réflexes. Voilà, donc qui fait qu'en cas d'accident, en cas d'incident, on a tout de suite les bons réflexes.
Dans une telle situation, ce sont les sapeurs-pompiers de la Corrèze qui interviennent en premier. Pour le capitaine Alain Venot, même si tout est écrit dans un scénario, cet exercice est excessivement important.
Dans cet exercice, on passe dans une configuration qu'on appelle nombreuses victimes, avec la prise en charge de nombreuses personnes blessées, en lien avec le SAMU, mais également les associations agréées de sécurité civile, pour mettre en place la prise en charge des victimes du site, vers l'évacuation à un poste médical avancé et ensuite vers les hôpitaux qui ont été déterminés. Ça demande une 60aine de sapeurs-pompiers, plus des personnels du SAMU, plus évidemment les forces de l'ordre qui sont présentes pour sécuriser la zone.
Parce que si les secouristes coordonnent leurs mouvements et leurs ordres, l'enjeu de cet exercice reste surtout l'information aux populations vivantes à proximité de l'événement.
Évidemment, il y a le déclenchement de l'alarme de la fameuse sirène sur le site de Butagaz pour informer les populations aux alentours. Et on a également déclenché le FR Alert, qui est un système d'information des populations que les personnes dans un certain périmètre reçoivent avec des consignes à tenir. Donc nous l'objectif c'est de mettre en place nos procédures en inter-service jusqu'à la prise en charge des victimes et leur évacuation.
Et c'est d'ailleurs la première fois en Corrèze que ce dispositif FR Alert était testé dans le département. C'est ce qu'explique le préfet de la Corrèze, Étienne Desplanques.
FR Alert, c'est un dispositif que l'on teste aujourd'hui pour la première fois dans le département qui vise à envoyer un message sur tous les téléphones portables dans une zone donnée à partir de relais que nous activons. Dans le cadre de l'exercice, c'est une notification. Si c'était réel, ce serait un SMS qui serait automatiquement envoyé à tous les portables. On a cerné les relais qui sont autour de la zone de Butagaz à Brive. L'objectif est de couvrir environ un rayon de 1000 mètres autour de Butagaz. Cependant, les relais sont un peu autour, donc parfois le message est reçu au-delà de la zone. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins.
Hier, quelques dysfonctionnements ont été notés. Seuls les clients d'un des 7 opérateurs en France ont reçu le message d'alerte. C'est donc là aussi un enjeu de ces exercices grandeur nature, valider ce qui marche, mais surtout surligner les couacs et autres erreurs. D'autant plus que FR Alert n'est utilisé qu'en cas de crise majeure.
C'est un dispositif qui est applicable pour l'ensemble de la France. Les premières préfectures ont commencé l'année dernière à le tester. Nous lançons aujourd'hui. Et le dispositif est en phase de rodage, mais les premiers résultats, en tout cas, donnent satisfaction sur les premières alertes.
Et les services de secours tireront les enseignements de cet exercice grandeur nature au cours des semaines prochaines. Le changement climatique, nous en parlons sur toutes les antennes de radio, de télé, dans les journaux de presse écrite ou même sur des chaînes YouTube. Et alors que le thermomètre de ces débuts du mois d'octobre atteint encore presque tous les jours les 28, 29, voire 30 degrés. Et bien certains jeunes, à l'image d'Émilie Chanac en 3e à Cabanis, sont très angoissés. Alors quand elle entend parler du projet de construction d'une autoroute entre Toulouse et Castres en Occitanie, eh bien la jeune adolescente est hors d'elle. Mardi dernier, elle a fait grève, une grève de la scolarité contre ce projet autoroutier, mais surtout en soutien à un homme, Thomas Braille. Et c'est parce que cet homme est en danger pour défendre une cause qui lui tient à cœur qu'elle a fait le choix de ne pas aller à l'école mardi dernier. À ses côtés, Sacha Guilardi, lui, est en terminale à Darsonval. Autour de son cou, une pancarte est attachée. On peut y lire « Je suis en grève de la faim contre la 69 ». Mardi dernier, en fin de journée, l'abattage des arbres sur le chantier de l'autoroute a été temporairement interrompu. Thomas Braille, de son côté, est toujours hospitalisé, mais a recommencé à s'hydrater et à se nourrir. Boire et manger localement, c'est le thème de la deuxième biennale européenne d'histoire locale organisée à Tulle. Les rencontres ont débuté cette semaine, notamment au cinéma, le VO à Tulle, mais aussi à la médiathèque Éric Romer. Et en cette fin de semaine, tout un cycle de tables rondes s'organise avec l'intervention de sociologues, d'historiens, mais aussi d'anthropologues, d'agriculteurs ou de cuisiniers. Parce que manger est aussi un acte politique, souligne l'historien Jean Boutier. Il enseigne notamment à l'école des hautes études en sciences sociales.
L'alimentation est en train de créer des grandes fractures dans notre société. Est-ce qu'il faut manger de la viande? Est-ce qu'il faut être végétarien? Que devons-nous faire? Dans des formes, je dirais, de militantisme, on a de plus en plus d'injonctions qui nous pèsent, qui peuvent être des injonctions d'ordre, disons, politique, hein, manger de la viande ou pas, des injonctions d'ordre médical. Est-ce que nous mangeons bien? Est-ce que nous devons voir un nutritionniste pour manger correctement? Est-ce que nous devons abandonner les plaisirs de la nourriture pour des nourritures austères, mais qui nous feraient du bien? Donc nous sommes dans un système assez compliqué, et c'est cela que nous allons essayer de déployer avec des gens qui ont été choisis parce qu'ils savent parler simplement de choses compliquées.
Si manger et boire localement est au centre des débats, c'est aussi parce que ces actions sont au cœur de notre quotidien.
Est-ce que l'on peut tout manger local? Non, on sait très bien que beaucoup de choses vont nous manquer. Hein, bien. Mais en même temps, est-ce qu'on peut mieux manger local avec des producteurs que l'on connaît, avec des produits qui sont des circuits courts, qui sont frais, qui n'ont pas voyagé longtemps dans des camions, etc. Donc je pense que l'enjeu local est un enjeu important dans la façon dont nous construisons notre vie et dont nous sommes des acteurs de notre vie. Même si nous avons l'impression d'être perdus dans un monde en phase de mondialisation, nous restons au niveau local des acteurs de notre vie.
Des recettes se transmettent de génération en génération. Certaines, grâce aux échanges culturels entre les pays, font évoluer la recette, la changent ou l'adaptent à de nouveaux goûts, d'où l'intérêt pour l'organisateur d'inscrire ces débats dans le prisme européen.
La richesse de l'Europe est dans sa diversité. Et cette diversité, on la saisit d'abord au niveau des régions. Les Espagnols vous le diront, on n'est pas la même chose si on est basque, si on est galicien, si on est catalan ou si on est andalou. En Allemagne, la réalité régionale est fondamentale. Un Bavarois, ce n'est pas la même chose qu'un Hambourgeois. On a besoin de cette réalité régionale pour comprendre l'Europe et pour construire l'Europe.
Tout l'enjeu aussi de ces tables rondes est d'ouvrir à la discussion et surtout d'écouter les arguments de chacun.
Ce n'est surtout pas un colloque universitaire. Ce n'est pas le but. Le but, c'est au contraire un échange très large entre des spécialistes de haut niveau et avec des points de vue qui ne sont pas forcément uniformes. Nous avons besoin de discussions, de critiques, de contradictions. Mais nous n'avons surtout pas besoin de prises de position violentes, radicales, militantes, qui sont des positions qui souvent empêchent la discussion. Dès lors que nous essayons de comprendre le monde dans lequel nous vivons, nous devons un peu laisser en suspens ces prises de position politiques pour écouter des positions diverses. Au bout du week-end, à nous d'élaborer nos propres positions qui vont probablement être importantes dans notre vie quotidienne.
Tout le programme des tables rondes est à retrouver sur le site de la Biennale, biennale-tulle.fr. A noter que les ouvrages des différents intervenants sont à retrouver à la librairie éphémère de la Biennale de Tulle, librairie que vous retrouverez dans l'ancien office de tourisme, place de la Poste. Nous arrivons au terme de ce 31e quart d'heure corrézien, mais avant de nous quitter, je tenais à tout prix à vous inviter à vous rendre à l'école municipale d'art plastique de Brive. C'est à l'ancienne école Firmin Marbeau, parce que jusqu'à mardi prochain, l'un des créateurs de ce lieu, il y a 22 ans maintenant, y expose une partie de son travail de ces 5 dernières années. Cet artiste, c'est Jean-Maurice Souchaud. L'homme nous invite au gré de ses voyages, ici en Corrèze, là sur l'île d'Oléron ou encore en Vendée. Cette exposition est d'autant plus personnelle que l'homme qui se cache derrière son épaisse barbe n'apprécie guère se montrer. Parce que cette passion de la peinture, il l'a partagée durant des années avec son épouse Sandrine. Ces inséparables ont construit l'école municipale d'art plastique. Ensemble, ils ont permis à de jeunes talents de préparer des concours d'entrée en école d'art. Et ils ont aussi eu deux filles qui, samedi à 17h, seront de retour dans l'école de leurs parents. L'école municipale d'art plastique de Brive est ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 18h30. Quant à l'exposition, elle reste à voir jusqu'à mardi prochain. C'est la fin de ce 31e numéro du quart d'heure corrézien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro toujours consacré à l'information corrézienne. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments sur nos ondes.
Vous venez d'entendre le quart d'heure corrézien. L'émission est à retrouver sur nos sites bramfm.com, rcf.com et radiograndbrive.fr.